Donc nous faisons la méditation des mystères du rosaire. Et le sixième mystère, donc c'est le mystère, on rentre dans les mystères lumineux. Le premier mystère lumineux, c'est le baptême de Jésus dans le Jourdain. Alors là, évidemment, comme je n'ai pas de... J'ai pas l'habitude, c'est tout nouveau, c'est depuis cette année qu'il y a les mystères lumineux, vous savez. Donc, on n'a pas une somme extraordinaire d'un poids, tradition mystique, tout ça. Alors, il nous faut bien comment on dit que les étudiants, il nous faut des sèches, c'est ça. Alors, là, on n'a qu'une seule possibilité, c'est de dire ce que dit le pape. Donc, le pape a lancé ça, et voilà ce qu'il dit pour propos de ce mystère. Le baptême au Jourdain est avant tout un mystère de lumière. Voilà comment il introduit ce mystère-là. En ce lieu, donc dans le Jourdain, alors que le Christ descend dans les eaux du fleuve, comme l'innocent qui se fait pécher pour nous, les cieux s'ouvrent. La voix du Père le proclame, son Fils bien-aimé, tandis que le Saint-Esprit descend sur lui pour l'investir de la mission qui l'attend. Voilà l'énoncé du mystère. Jusqu'à maintenant, nous avions ces 15 mystères du rosaire, donc on montait allègrement jusqu'à l'Assomption, jusqu'à... facilement, mystiquement. Et lumineusement, il faut bien le dire. Alors, tiens, sont venus s'incruster, là, ici, les 5 mystères lumineux, et on est les premiers à en faire l'expérience. Le pouvoir des clés de l'Église est ouvert, nous sommes les premiers à rentrer dans ces mystères, j'allais dire, intermédiaires, qui ont véritablement une importance immense. Nous vivons quelque chose certainement de très fort sur le plan historique, dans l'histoire eschatologique, dans l'histoire de... Il y a sûrement ici quelque chose de très fort, quoi. Et on va essayer donc de rentrer dans ces mystères-là. Et on comprend tout de suite le baptême de Jean-Baptiste, on entend bien, parce qu'on se dit... Oui, les premiers mystères, voilà, premier mystère, fruit du mystère, la disponibilité surnaturelle et joyeuse. Deuxième mystère, l'union, la communion surnaturelle des cœurs. Troisième mystère, l'effacement, l'humilité infuse et surnaturelle, etc. Ça, on connaît ça depuis longtemps, depuis des siècles. Mais là, ici, quels sont les fruits du mystère? Quelles sont les dispositions? Hop, que ça. En fait, ça va de soi, évidemment, parce que les dispositions, elles sont très simples. C'est, on voit bien, c'est le baptême de Jean-Baptiste. Le cinquième mystère lumineux, c'est l'Eucharistie. C'est la transsubstantiation. C'est toute la lumière qui vient se focaliser pour se transmettre de manière incréée dans quelque chose de créé. C'est l'Eucharistie. Effectivement, quelque part, le fruit de chacun de ces 5 mystères lumineux, c'est le fruit, on le sent bien, hein, moi je dirais ça, c'est le fruit du sacrement. C'est le fruit du sacrement. Alors, il y a le fruit du sacrement de baptême, premier mystère, vous voyez. Le deuxième mystère lumineux, c'est quoi? C'est les noces de Cana, c'est la sponsalité, c'est le fruit du sacrement de mariage. C'est la révélation du fruit du sacrement de mariage. Que l'Église ouvre dans ceux qui prient. Et puis après, il y a Jésus qui vient guérir les malades, relever les affligés, redresser ceux qui sont fatigués, les découragements, les maladies, les langueurs, tout ça. Ressusciter les morts, donner la lumière, les ténèbres n'ont pas pu l'arrêter pendant ces 3 ans donc de conversion, d'évangélisation. Bon, bah, c'est le sacrement des malades, quoi. C'est évident, c'est le fruit du sacrement des malades, ce qu'on appelait l'extrême onction. Et puis après, le sacrement de confirmation, la transfiguration, c'est la force pour aller jusqu'au fruit plaigné de l'Eucharistie, quoi. Alors vous me direz, mais on a déjà vu pendant les cinq premiers mystères que les cinq premiers mystères joyeux, c'est le sacerdoce. Quelque part, les cinq mystères joyeux, c'est le sacerdoce. On a vu ça continuellement. C'est tout le temps le sacerdoce royal qui était institué. Et puis, après, les mystères, du coup, douloureux et puis glorieux, qui sont les dix autres mystères, correspondent au fruit du sacrement de confession. Parce qu'effectivement, le sacrement de confession, le fruit du sacrement de confession, c'est la rémission des péchés. Et c'est la confession. Dieu se montre tel qu'il est, il confesse qu'il est Dieu en nous, et nous confessons que nous sommes Dieu en lui. C'est vraiment le fruit de sa grande confession, les cinq mystères douloureux et glorieux. On voit bien. Moi, il me semble que ça, quelque part. Alors, évidemment, on n'avait pas avant les mystères joyeux, c'est vrai. On n'avait pas les mystères joyeux. On en avait... Quelque part, tous les sacrements sont connexes. Il y a une connexité entre les sacrements. Donc, à partir du moment où le sacerdoce était institué dans le sacerdoce royal, cette médiation directe dans la chair, le sang, l'esprit, la grâce, entre Dieu et les hommes, en nous, quoi. Le sacerdoce est institué. Bon, bah, c'est les mystères joyeux. Et puis, il y a le mystère de confession, c'est-à-dire la rémission des péchés. Tous les sacrements sont impliqués dedans. C'est trop clair, quoi. Hein? C'est vrai, parce que dans ce mystère de confession, on est vraiment plongé dans la mort et la résurrection du Christ. Donc, le baptême est là. Et donc, il y a le mariage avec Dieu. Donc, il y a etc. Quoi, hein? Donc, on a quelque part... Mais on a besoin aujourd'hui de l'expliciter. Pourquoi? Parce qu'il faut vivre explicitement et jusqu'au bout du fruit des sacrements. L'usage des sacrements, maintenant, c'est terminé. Sacrements pour eux-mêmes, ça sert à rien. Ces sacrements dans leurs fruits. C'est ce qu'on en... C'est les fruits, c'est ce pourquoi ils sont faits, quoi. Et alors, c'est pour ça que ça risque d'être très beau, de prendre comme fruit de chaque mystère joyeux, lumineux, le fruit de chaque sacrement. Vous voyez ? Pour le baptême. Bon, alors, ça c'est pour une petite introduction. Je vous conseille un peu comme reprendre comme dans une perspective l'ensemble du rosaire. Mais aujourd'hui, donc, prenons ça, nous avons le mystère. Regardez à partir d'où, puisque il y a quand même quelque chose d'organique. Il faut dire que aussi, il y avait quelque chose d'un peu gênant dans le rosaire. Il a raison, le pape. D'ailleurs, je serais très 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 insolent de dire que le pape n'a pas raison. Bon, mais je dis, c'est pas, c'est bien mon style d'être insolent, mais bon, là, il faut quand même pas. Alors, mais quand même, c'est vrai, vous passez des mystères joyeux, et puis, d'un seul coup, vous passez 30 ans après, quoi, et puis, tout de suite, la flagellation. Enfin, il y avait une rupture, quoi. On voit pas le lien. On voit pas le lien, comment surnaturellement, c'est immédiat, quoi. Qu'on passe d'un mystère à un autre. Comme une fleur se développe dans une autre fleur, tout naturellement. Et on l'a bien vu, du reste, dans les mystères joyeux, comment c'est organique, tout ça. C'est comme la croissance d'un arbre, quoi. C'est vrai. Et là, donc, il faut toujours reprendre, voir à quel point chaque mystère s'enracine dans le précédent et se déploie, se manifeste dans le suivant. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose de grand dans le fait d'avoir rajouté ces cinq mystères joyeux. Parce que du coup, le rosaire devient vraiment vivant. Continuellement. Alors, voyez, regardez la dernière fois, quand on avait regardé le cinquième mystère, que Jésus avait quitté le temple et était descendu dans la Sainte Famille. C'est magnifique, ça. C'est vraiment extraordinaire. Bon, je ne vais pas revenir dessus, mais n'empêche que... C'est quand même très 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 fort, quoi, que désormais c'est Saint Joseph, celui qui est le dikaios on, celui qui est l'être ajusté jusque dans sa substance à Dieu et à celui que Dieu met proche de lui, qui prend l'initiative. C'est sous son nom que tout se fait. C'est quand même assez extraordinaire. Ça veut dire que désormais, Jésus va être proche de Joseph. C'est-à-dire qu'il va être face à face avec Joseph. Ça veut dire qu'il va prendre Joseph, d'habitude, dans sa personne, il est face à face avec Dieu. Prostanteron, il est. Le verbe, le gosse, prostanteron, il est. Le verbe est face à face avec le Père. Dedans le Père, et face au Père, il voit le Père. C'est ça, la vie de Dieu, c'est de voir Dieu tout le temps. Et de se perdre dans cette vision extraordinaire de Dieu. Et désormais, toute la divinité de Jésus va s'effacer dans son âme humaine, va se mettre en dessous pour se mettre face à Dieu le Père à travers Joseph. Donc il va être face à Joseph, il va être contemplé. La première personne de la très sainte Trinité, à travers la justice surnaturelle, substantielle de Joseph, à Dieu le Père. Alors, Saint Joseph, lui, qu'est-ce qu'il fait dans la Sainte Famille? C'est lui qui prend toutes les initiatives, il ne sait faire que des choses simples, et il ne regarde Jésus que dans une admiration, il ne voit que Dieu. Derrière le visage de Jésus, il ne voit que Dieu. C'est ça. La vie éperdue de Saint Joseph dans la Sainte Famille. Quand il voit Jésus, il ne voit que Dieu. Et pourtant, il doit lui obéir. Dieu doit lui obéir. Et pour lui obéir, Dieu voit en Saint Joseph, ne regarde à travers Saint Joseph que cette présence de Dieu le Père. Donc, les deux sont des êtres humains, le fils et le papa, l'enfant et le père, humains, et ils ne se regardent, Il ne voit dans chacune des personnes et à travers elles que des personnes de la très sainte Trinité. Alors c'est une unité de l'intérieur de ces deux personnes tellement forte que du coup il y a une disposition, il y a un nid possible pour l'Immaculée Conception et pour la foi toute immaculée de Marie. Pour rentrer là dans cette sainte famille, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, et que du coup, c'est l'Esprit Saint qui va actuer tout ce qu'elle va vivre. C'est vraiment de la très sainte Trinité. On peut dire que c'est le terme, c'est l'éclosion, c'est l'aboutissement, c'est l'effusion de tout l'acte de l'incarnation. Tous les mystères joyeux, c'est vraiment l'incarnation. Là, elle va jusqu'au bout. Toute la très sainte Trinité se rend présente dans cette unique. Dans cette unité, dans cette trinité incarnée des personnes, dans une simplicité incroyable. Le moindre acte, le moindre geste, le moindre regard est tout rempli intégralement de chacune des trois personnes divines de la très sainte Trinité. Alors, c'est pour ça qu'on disait la dernière fois que c'était vraiment l'union transformante. La vie surnaturelle a commencé. La vie surnaturelle a commencé dans l'Église, dans cette cellule mystique vivante, première cellule mystique vivante de l'Église. La vie surnaturelle, la transformation surnaturelle de la chair, tout donné à Dieu, a commencé. C'est l'oraison. C'est vraiment le fruit, c'est l'oraison. Et l'oraison, si elle va jusqu'au bout, quand on fait oraison, vous voyez, ça fait un quart d'heure d'oraison par jour, vous vous livrez dans le silence vivant à ces opérations divines de la très sainte Trinité à travers vous et tous ceux qui sont proches de vous. Et vous écartez avec Saint Joseph tout ce qui n'est pas ça. Vous vivez l'oraison avec Saint Joseph. Saint Joseph, c'est très commode. Hein. Vous sortez de votre tête, hein, vous sortez de votre mental, vous sortez de votre ego, vous sortez de votre affectivité, vous sortez de votre senti, et vous rentrez dans le cœur, dans le corps, dans l'instrument. Et à travers votre corps, Saint Joseph devient le père de la vie de grâce qui est en vous. À travers votre âme remplie de grâce, Marie devient la mère. Et à travers votre cœur, Jésus est en train de croître. Vous faites oraison comme ça, avec la Sainte Famille. La Sainte Famille, c'est vraiment le mystère de l'union transformante. C'est extraordinaire d'ailleurs, c'est vraiment magnifique. Alors, au fur et à mesure que l'union transformante se fait, au fur et à mesure, l'union devient totale. C'est pour ça qu'il faut du temps, 18 ans. Il faut du temps. Et il y a eu du temps, il y a eu une transformation. Jusqu'à la septième demeure de l'union transformante. Nous savons que la septième demeure d'union transformante, qu'on appelle le mariage spirituel, s'est réalisée au terme de cette cinquième mystère joyeux. Le mariage spirituel. Ce qu'à Saint-Thérèse d'Avila dit à propos de la cinquième demeure, de la septième demeure, qui est le mariage spirituel avec toute la vie surnaturelle. La vie surnaturelle a tellement pris que c'est vraiment la divinité incarnée en nous qui vit. Et rien d'autre. Joseph a tout écarté le reste. C'est pour ça que c'est une vie cachée, simple, silencieuse, vivante, surnaturelle, qui change tout. La face du monde va changer, la crêpe va se retourner. Et c'est le sixième mystère. Et Saint-Thérèse d'Avila dit à propos du septième mystère, la caractéristique de la septième demeure, c'est une soif insatiable de souffrir. C'est surprenant. Tiens, je vois pas le rapport. Une soif insatiable, inaltérable de souffrir. C'est vraiment le contraire de l'autoréalisation. Ah, hein? Oh, je peux pas me réaliser. Une soif insatiable de souffrir. Pourquoi? Mais tout simplement parce qu'à cause de ce qu'on avait vu, c'est que dans le quatrième mystère, Jésus avait été consacré, la blessure de l'agneau s'était inscrite dans son cœur d'enfant. Et donc, le martyr, la mort, j'allais dire, incrée Jésus, commence à pénétrer dans son cœur d'enfant. Et il a commencé à croître avec ça, manifester avec ça. Et Joseph était tellement uni au Verbe incarné, s'incarnant dans cette blessure du cœur, dans la croissance de l'enfant, que cette mort s'est inscrite de plus en plus dans le mariage spirituel, trinitaire, mutuel. Une communion avec Jésus crucifié, enfant. Pour Joseph, jusqu'à la plénitude, donc jusqu'à la plénitude, cette union avec l'offrande victimale crucifiée de Jésus, le mystère de l'agneau, la blessure du cœur, qui avait été annoncé par Siméon pour Marie, un glaive te transpercera l'âme. C'est Joseph qui doit prendre l'initiative. C'est sous Joseph que ça va se faire. Et donc c'est lui, effectivement, dans l'unité du Père et du Fils, Jésus et Joseph, vont vivre cette union, et c'est dedans cette unité-là que Marie va s'installer. Joseph va en mourir. Et la mort donc, humaine, pour la première fois, dans l'incarnation, le mystère de l'incarnation, dans la vie de Jésus, Jésus va faire l'expérience de la mort, à travers la mort de son Père. Jusqu'à maintenant, Jésus n'a jamais été confronté à la mort. Mais vous comprenez bien que quand on est dans la Sainte Famille, qu'il y a une unité contemplative incarnée aussi puissante par la foi, c'est vraiment une demeurance l'un dans l'autre. Il vient demeurer chez Joseph et dans l'intime de Joseph, le cœur de Joseph, et réciproquement. Donc le cœur de Jésus bat dans la poitrine de Joseph, etc. Et donc de plus en plus, jusqu'au mariage, bon, jusqu'à, pas l'assimilation, mais jusqu'au mariage mystique absolu. Vous voyez, il y a une espèce d'animation vivante d'amour mutuel commune. Et donc à travers cette animation amoureuse mutuelle d'unité absolue commune, Jésus dans Joseph va en mourir. Et pour la première fois, il va y avoir la mort qui va venir. Et la mort va venir, il va mourir d'une mort donc surnaturelle. Jésus, lui, il va souffrir d'une mort incréée plus tard. Sur la croix. C'est par amour pour son Père. Il va arracher son âme de... Par la puissance de sa divinité, il va arracher son âme de son corps. C'est l'amour de Dieu le Fils pour Dieu le Père. C'est une mort incréée. Ça va s'inscrire dans les... C'est une mort éternelle. La mort de Dieu, de Jésus. Parce que la mort de Joseph sera une mort surnaturelle. Le mariage surnaturel est total. La vie surnaturelle est absolue. Il est allé jusqu'au mariage surnaturel. Donc la mort... Il est mort. Il est mort de la mort de Jésus. C'est le premier stigmatisé, si vous voulez. Un peu, on peut dire. Mais stigmatisé, ça ne fait pas comprendre, parce que la stigmatisation, ça reste extérieur. Les gens qui sont stigmatisés, c'est extérieur à ça. Mais sûrement, bien sûr, qu'il y a eu quelque chose comme ça. Il est mort. C'était trop fort pour lui. Et donc, il est mort. Il est mort d'amour pour Jésus. C'est une mort d'amour pour le Verbe incarné. Il n'a pas supporté physiquement, spirituellement, surnaturellement, il ne pouvait plus vivre. Il ne faut pas oublier qu'il avait laissé que des péchés originels, donc c'est lui qui est mort le premier. Et malgré toute la plénitude de grâce, de force qu'il y avait en Jésus et dans l'unité sponsale avec Marie, voyez. Donc la mort s'est introduite dans cette sainte famille. Et Joseph est donc rentré avec cette blessure de l'agneau dans son âme déchirée, dans les limbes. Il est rentré dans le sein d'Abraham, il est rentré dans les limbes. Jésus et Marie sont retrouvés là. Et c'est là qu'il y a un personnage, un saint, extraordinaire, très très grand, qui me, moi personnellement, m'étourdit beaucoup. C'est Saint Jean-Baptiste qui arrive, qui revient. Il ne faut pas oublier qu'il y avait déjà eu une unité, j'allais dire, presque incarnée, organique dans le mystère de l'incarnation, vous rappelez, à la visitation. Vous rappelez que déjà là, il y avait eu la constitution à l'état de germe du cœur eucharistique de toute l'Église. Et tout l'amour débordant du Verbe incarné dans le cœur de Jésus, de Marie, était venu se reposer dans le cœur de Jean-Baptiste. Et il est devenu le tabernacle, Jean-Baptiste, avant sa naissance, d'une sainteté parfaite, puisque c'est la surabondance de tout l'amour de l'incarnation de Jésus, qui se reposait en lui. Alors il y a eu cette première Pentecôte. Et à la nativité, il y a eu bien sûr une exclamation qui s'est faite dans ce saint, dans ce Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, lui, il faisait partie de la sainte famille. Dès avant la naissance, il est rentré, il a été incorporé à la sainte famille, tout en partant dans le désert. C'est étonnant. Donc il a participé, mais à distance, par la foi de Marie, par l'incarnation de Jésus, Marie et Joseph. Et il y a eu, en même temps, vous vous rappelez, quatrième mystère, on l'avait vu aussi, que le sacerdoce lévitique avait trouvé son incarnation dans le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, qui était apparu et qui s'était incarné. Le Verbe a pris chair dans un sacerdoce éternel. Il est venu baptiser le sacerdoce lévitique. Il ne faut pas oublier que Jean-Baptiste est prêtre. Le lendemain, Siméon est mort. Mais Jean-Baptiste, lui, était vivant. C'est lui qui a hérité du sacerdoce éternel sur l'ordre de Melchisédek, du quatrième mystère joyeux. C'est comme ça qu'il a vécu en l'unisson dans le désert avec toute l'union transformante dans la Sainte Famille, comme en faisant partie. Dès que Joseph est décédé, dès que la mort s'est introduite dans l'expérience sacerdotale de cette famille nouvelle, de l'Église qui était née, qui avait été conçue, qui continue à croître, dès que la mort était là, ça y est, tout pouvait commencer. Puisqu'on était passé de l'incarnation et on avait intégré jusqu'à la mort surnaturelle dans le corps mystique. Vous voyez, sans le corps mystique de Jésus. Sans le corps mystique, vous voyez. Sans le corps mystique de l'Église, qu'on appelle l'Église. On ne peut rien faire. Même avant la mort du Christ, il a fallu qu'il y ait ça. Vous voyez, Jésus, Dieu n'a pas voulu rien faire, même dès le départ, sans le corps mystique. Sans le corps mystique de Jésus, sans ce corps mystique, sans qu'il y ait cette communion incarnée d'amour dans la construction de la Jérusalem vivante, par la grâce, et dans la blessure de l'agneau de Dieu. La blessure de l'agneau de Dieu est donc venue s'enfoncer dans le lieu de la mort, dans les limbes. Oh, ça c'est impressionnant, quoi. C'est impressionnant. Alors, ceux qui vont contempler le premier mystère lumineux, il y a du boulot, il y a de la matière, vous savez, parce que il y a vraiment de la matière. On voit aussitôt la parole de Saint Luc dit, je crois, le verbe de Dieu, verbum, factum est, apud eum. Le verbe a été fait sur lui, sur Jean-Baptiste. Apparu un homme appelé Jean. Et le verbe a été fait sur lui. Le verbe, la première personne de la très sainte Trinité. Alors, toujours pareil, la traduction française, c'est le Targum de Saint Jérôme, je suis d'accord, hein, qui dit verbum, Saint Grégoire raffole, dès qu'il voit verbum, qu'on traduit en général, alors la parole de Dieu fut adressée par Jean. Dans le désert. Non, la parole de Dieu fut adressée à Jean dans le désert. Donc, Saint Grégoire lui dit verbum. Verbum. Saint Jérôme dit verbum. Ah, donc ça, c'est le Targum qui est derrière. Le Targum de Saint Jérôme. Donc l'intention de la révélation, c'est-à-dire que c'était le Verbe de Dieu. C'est la première personne de la Sainte Trinité. Est passée par lui. Donc le premier à parler ouvertement, ça n'a pas été Jésus. Qui lui était le Verbe. Le Verbe de Dieu a parlé par la bouche de Jean-Baptiste. Et il dit, c'est la voix qui crie dans le désert. Le Verbe de Dieu a parlé par une présence extraordinaire, celle de Jean-Baptiste. La voix, c'est la présence vivante de Dieu dans le désert. Et le Verbe s'est posé sur lui, ce qui montre bien qu'il fait partie de la Sainte Famille. Vous voyez, puisque dans la Sainte Famille, quand on va jusqu'au mariage spirituel, septième demeure, alors on va subsister dans l'unique personne du Verbe de Dieu. Donc on a ici une confirmation incroyable que Jean-Baptiste faisait partie de ce grand processus d'union transformante jusqu'à la septième demeure du mariage spirituel. Jusqu'à la mort de Joseph. Et à la mort de Joseph, on peut dire que le mariage spirituel, surnaturel, est accompli. Il subsiste dans le Verbe, et le Verbe se pose sur lui. Ça, c'est du Saint-Luc tout craché, ça. Saint-Luc, attention, il est précis. Hein. C'est extraordinaire. Et alors, du coup, Jean-Baptiste va proclamer le baptême. Ce personnage est vraiment incroyable. C'est très... Il le fait à distance, vous voyez, il n'a pas le visage de Jésus, il ne l'a jamais vu. Il le dit 5 fois dans l'évangile. Je ne l'ai jamais vu, Jésus. Il le dit à tous. On l'interroge, on dit, mais alors, et Jésus, et le Messie, tout ça. Il savait hein, que le Messie, le Christ, il était là. Tous le savaient, puisqu'on connaissait les dates quand même. Hein. Et puis, on l'avait vu passer partout. Pendant 5 mois après la mort de Joseph, pendant 5 mois, Jésus, il a circulé, il a quitté tout de suite Nazareth, Capharnaüm, Tyr, Sidon, etc. On n'en parle pas dans l'évangile, mais il a circulé partout. Tout le monde entendait parler de Jésus. C'est pas de miracle. Mais il faisait du bien. Il consolait, il conseillait, etc. Il était partout, partout, partout. Il a circulé pendant 153 jours. C'est beau aussi ça. Moi, je pense que c'est pendant 153 jours, c'est pas dans l'évangile. C'est autre chose. Alors donc, et jusqu'à ce qu'il se fasse baptiser par Jean. Et Jean, lui, il a engendré un baptême. Il était prêtre. Vous voyez ? Et il baptisait dans le Jourdain. Ah, il passait dans le Jourdain, c'est un fleuve, c'est de l'eau. Et en hébreu, Jourdain, ça veut dire ce qui descend en dessous. L'eau qui descend en dessous. C'est vrai que quand Jésus va être plongé dans les eaux du Jourdain, c'est-à-dire qu'il va descendre dans les larmes de la contrition, mais aussi dans toute cette vie humaine qui descend vers l'enfer, qui descend dans le péché, quoi. Qui ne vit que du péché, vers le dessous tout le temps. Vers le dessous. Il va se plonger dans cette vie qui ne cesse de descendre vers le dessous. Alors, la vie humaine est faite pour monter vers le dessus, quoi. Si je puis dire. Et de se répandre partout. Non, 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 la vie. Alors, il va se plonger dans les eaux du Jourdain. C'est dans les eaux du Jourdain, aujourd'hui, on dit la Jordanie, hein. C'est un fleuve, la Jordanie. Moi, j'y suis allé, moi, dans la Jordanie. J'y suis allé. là, à l'endroit où Jean-Baptiste est baptisé. Et Josué et Yoshua, une fois, ils passaient par là. Vous savez, vous verrez ça dans le livre de l'Exode. Ils passaient par là. Et il y a eu... ils sont passés à pied sec. Une muraille à droite, une muraille à gauche. Ils sont passés, les eaux sont écartées. L'Arche d'Alliance a été posée au milieu du Jourdain. Sur quatre pierres, ils ont posé du coup 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël autour. Ils ont posé l'Arche d'Alliance et tout le peuple est passé à pied sec. C'est sur ces quatre pierres que Jésus a été baptisé. Moi, je me rappelle, je suis allé, on rentre dans l'eau, et puis Jean-Baptiste est baptisé là, il y avait des gens qui étaient là sur le bord, ils sont spontanés là-bas, vous comprenez, alors ils sont descendus dans la flotte, hein, dans l'eau, ils sont descendus dans l'eau, ils disent, vous nous baptisez, alors j'ai baptisé. Il s'est rien passé. Tandis que quand c'est Jean-Baptiste, c'était pas pareil. Jean-Baptiste, c'était. c'est un pèlerinage, quoi. Bon. C'est Jean-Baptiste, c'était prêtre. Il était revêtu du sacerdoce. C'était le sacerdoce de l'Ancien et du Nouveau Testament, si je puis dire. Accompli dans l'Ancien, s'initiant dans le Nouveau, et donc il a fait le mémorial qu'on lit dans le livre du Lévitique, ici sur les eaux du Jourdain, pour rappeler, pour faire le mémorial du sacrifice des épis, etc., au milieu du Jourdain, à cet endroit. Il l'a fait, c'est lui qui l'a fait. Et il avait donc la robe sacerdotale, un petit peu ainsi qu'il est écrit dans l'étude Lévitique, avec les six, la pierre précieuse sur la droite et sur la gauche, avec les six tribus d'Israël marquées dessus, mais aussi les 12 plaquettes, là, vous savez, les fameuses 12 plaquettes, avec les noms d'Israël dessus, il y avait déjà les 12 pierres. C'est normal. Et puis, il a reconsacré dans le sacerdoce, selon l'ordre de Melchisédek Nouveau, ce lieu pour le baptême de Jésus. Il était une foule innombrable. Il est écrit que tout Jérusalem descendait. Ça représente, les historiens disent que tout Jérusalem, ça représentait, il y avait environ 2 à 3 millions de pèlerins par an. Enfin, dans ces jours-là. Donc c'est fou, la foule innombrable qu'il y avait. Et puis il était... ce sacerdoce nouveau, moi, je serais vraiment étonné, quoi. Joseph est décédé. Il l'a fait en pleine connaissance pour tous ceux qui étaient dans les limbes. Puisque il a pu descendre grâce à Joseph, avec lequel il était fortement lié par l'unité responsable d'Immaculée Conception, la mère de sa grâce sacerdotale. Et Jésus l'a blessé du cœur. Et puis, bien sûr, la Jérusalem glorieuse. C'est ça qui est représenté par les 12 pierres, les 12 noms d'Israël, les 12 plaquettes du sacerdoce. Il y a les 12 apôtres qui sont exprimés là, il y a les 12 tribus d'Israël, tout le peuple juif. Et puis bien sûr, il y a les 12 portes de la Jérusalem glorieuse. Donc, dans cet endroit-là, il a ouvert, la mort de Joseph a déchiré la possibilité de l'expression sacerdotale à partir du sacerdoce de Jésus, du baptême. Et c'est Jean-Baptiste qui en a été le prêtre. Et pourtant, c'est Jésus qui est prêtre. Et Jésus lui dit, tu sais, il dit, attends, c'est toi qui viens te faire baptiser par moi, lui dit Jean-Baptiste. Et c'est toi. Alors que je ne suis pas digne, je... Et Jésus dit, il faut que nous accomplissions les choses justes. Il faut que nous menions à leur accomplissement les choses justes. Les choses justes, la justice, c'est Joseph. Hein, tout de suite, il faut que nous ayons instinctivement noté qu'on voit, vous entendez le mot juste, tzadaka, dikaios en grec, tzadaka en hébreu. Tout de suite, il faut qu'instinctivement, vous traduisiez Saint-Joseph. Quoi. Parce que Saint-Joseph, c'est celui qui est juste jusque dans sa substance. Il a introduit dans les limbes, le lieu de la mort et de l'Hadès et des ténèbres, la présence désincarnée, certes, mais quand même, la présence vivante de la blessure de l'agneau de Dieu. Et Jésus dit à Jean-Baptiste, il faut que nous accomplissions, c'est-à-dire que nous le faisions mener jusqu'à son épanouissement total, ce qui est juste, ce qui fait par Saint-Joseph, depuis le fond des enfers, ce qui est complètement en dessous, et le fruit du péché, jusqu'à la Jérusalem glorieuse. Il faut le faire désormais passer du fond, puisqu'on y est maintenant, jusqu'à la Jérusalem glorieuse. Et quand je serai, moi, dans la Jérusalem glorieuse, épître hébreu, quand j'aurai passé le voile, alors je serai prêtre. Pour l'instant, le Verbe de Dieu exprime son sacerdoce à travers Jean-Baptiste. Le Verbe s'est posé sur lui. C'est beau, hein, vous savez, quand vous dites, par exemple, quand dans l'incarnation, on dit « le Verbe s'est fait chair ».« Et verbum caro factum est ». Le Verbe a été fait, et verbum, le Verbe, le Dieu vivant, a été fait, factum est, caro, dans la chair. Et là, le Verbe, alors, dans le cinquième mystère qu'on avait vu, c'était vendredi dernier, qu'est-ce qui était dit? Il était dit, in non intellexerunt, ils n'intelligèrent pas le Verbe qui avait été proféré sur eux. Ce n'est pas avec l'intelligence qu'ils sont rentrés dans la Sainte Famille, c'est avec le cœur. C'est avec la grâce, c'est dans l'union transformante, c'est par leur raison, c'est par le silence. L'intelligence au service de l'union transformante, la vie contemplative, incarnée totale d'amour. C'est trop beau, ça. C'est vrai que c'est très très beau, cette histoire de Sainte Famille, parce qu'on ne comprend pas sinon le baptême de Jean-Baptiste. Parce qu'effectivement, la moindre chose va être entièrement remplie de cette incarnation dans l'incréé du Verbe de Dieu, emportant dans lui, le Père est en moi et moi je suis dans le Père, en Saint-Joseph, etc. C'est fou, quoi, ce qui s'est passé dans la Sainte Famille. Et ça, ça a pu atteindre le fond des enfers. Vous voyez, il y a un lien entre Saint Jean-Baptiste et les limbes, hein, vous le savez, ça. Enfin, on le sait aujourd'hui, quand l'Église va pouvoir comprendre ça et pouvoir rentrer dans ce ministère de la fin du monde et de faire rentrer le fruit de ses sacrements jusque dans le fond des limbes. Parce que dans le lieu de la mort, c'est un mystère de. C'est typiquement relié au premier mystère lumineux. Ces enfants qui sont morts et qui n'ont pas de baptême, justement, ils sont dans les mains de qui? Ben, de la Sainte Famille nouvelle, c'est-à-dire de tous les membres vivants de la Sainte Famille glorieuse sur la terre. Alors l'esprit de Jean-Baptiste, l'esprit d'Élie, il est extraordinaire ce Jean-Baptiste, parce que vous voyez, c'est comme une espèce d'incarnation, il est comme une espèce de manifestation d'icône à la fois de Melchisédek, à la fois d'Élie le prophète, de Enoch, le patriarche. Parce qu'il faudrait faire une théologie de Saint Jean-Baptiste, en fait, pour comprendre. Enoch, c'est quelqu'un qui allait jusqu'à la Jérusalem glorieuse future et qui la voyait en traversant toutes les strates de la vie surnaturelle dans sa vie contemplative, en prononçant le nom d'Élohim. Élie, c'était le contemplatif du Messie. Melchisédek, c'était le prêtre. C'est le monde angélique, sans origine, sans fin. Et Jean-Baptiste, lui, il va être tout ça à la fois, quoi. Il faut arriver à sentir petit à petit à quel point ce Jean-Baptiste-là, toujours caché, toujours dans l'ombre, méconnu, pas facile à comprendre, avec sa culotte de peau, avec ses poils de chameau, avec sa pénitence incroyable, c'est pas facile à comprendre. On va petit à petit comprendre, et ce sera peut-être une des choses grandes de ce premier mystère lumineux, de pouvoir commencer à saisir ce qui se passe dans le baptême. Alors, Jean-Baptiste, il est très imprégné de la divinité de Jésus, que Jésus, qu'il n'a jamais vu, et qu'il connaît parfaitement parce qu'il a vu le Verbe. C'est dit clairement, quoi. Hein. Il a tressailli d'avant la naissance dans la divinité du Verbe, il l'a connu, et il en a vécu, et donc le ciel est ouvert comme pour Enoch, pour lui. Et il voit très bien par la foi et par sa vie contemplative cette incarnation progressive, continuelle du Verbe de Dieu à travers Jésus dans le corps mystique dont il fait immédiatement partie. Il ne faut pas croire qu'il ne voit rien. Tout ça, il le voit. Tout ça, il le sait. La pureté immaculée de sa vie fait qu'il est dans la clarté absolue là-dessus. Et c'est marrant cette insistance de Saint Jean-Baptiste quand les pharisiens, les juifs, les sadducéens, les hérodiens viennent l'interroger en disant « Je ne l'ai jamais vu !»« Tu es le Messie, Jésus, voilà. Je ne l'ai jamais vu !»« Je ne le connais pas !» Et pourtant, il l'annonce. Il dit « C'est lui. » C'est le Verbe. C'est le Messie. Je ne suis pas le Messie. Je ne suis même pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Je ne peux même pas porter sa chaussure. Donc, comme dit Origène, le fait de ne pas pouvoir porter la chaussure de Jésus, ça veut dire que je ne peux même pas être son apôtre. Je ne peux pas être son apôtre. Je ne peux pas être un des 12 apôtres. Je ne peux pas dénouer la courroie de ses sandales, ça veut dire que je ne peux pas. Je ne peux pas prendre, c'est une expression juive, qui veut dire, je ne peux pas le représenter. Je ne peux même pas le représenter. Et donc Jésus va venir, et puis il va se faire baptiser par lui, après qu'il en ait baptisé beaucoup d'autres. Il va le mettre dans la piscine qu'il a forcément institué, puisqu'il l'a consacré là, ici au milieu du Jourdain. Jésus va descendre dans les eaux du Jourdain, et puis Jean-Baptiste va prendre de l'eau, et puis il va le baptiser, et aussitôt Jésus remonte. Et aussitôt que Jésus remonte, ah oui, il était sur ces pierres, ça c'est beau aussi, il les a placées sur ces pierres, là où était l'arche d'alliance, la présence réelle de Dieu dans l'arche de l'Ancien Testament. C'est magnifique ça. Et Jean-Baptiste, quand les Juifs venaient pour se faire baptiser, il leur disait, écoutez, je vous donne un baptême d'eau. Je vous donne un baptême d'eau, mais il vient celui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et dans le feu. Ben, je vous donne qu'un baptême d'eau. Celui-là, il vient, il a annoncé sa venue, il va se faire baptiser, il vous baptisera lui dans l'Esprit-Saint et le feu. L'Esprit-Saint, c'est vraiment l'amour incréé de Dieu, et le feu, c'est le feu embrasé du Sacré-Cœur, dans l'Esprit-Saint et dans le Fils. Lui, c'est seulement dans l'eau, il est lié à Joseph. Il est lié à ce qui est plus inférieur, vous voyez. Il est lié à Joseph dans ce baptême. Je vous donne que dans l'eau, mais c'est lui qui complète, c'est lui qui fait tout après. Et il dit, vous savez, vous devez quand même vous convertir. Et je crois que c'est un baptême de conversion. Il faut vraiment que la crêpe se retourne complètement. Métanoïa, c'est un baptême de conversion. C'est un baptême de conversion, c'est un baptême pour la confession des péchés. Ex homologenai amartein. C'est joli, confession en grec. Hein. Ex, c'est une homologation externe de tous vos péchés. Vous homologuez tous vos péchés à l'extérieur. Voilà. C'est pas mal comme homologation. Ça, on doit faire déposer un brevet pour ça. Mais c'est la confession des péchés. On va ex homologue. Ah, Martha, c'est vraiment extraordinaire ça. C'est un baptême pour la confession des péchés. Mais l'absolution, la rémission, le feu qui embrasse tout, c'est lui qui le fera. Et donc vous venez, vous, parce que vous savez que c'est l'heure du Messie et vous avez peur. Vous venez parce que vous croyez que le Messie vient, il vient, la cognée est à la racine des arbres et vous êtes vraiment pourri le péché. Et vous êtes hypocrite, vous êtes plein de contours. Il était terrible, il ne se laissait pas faire Jean-Baptiste. Il ne se laissait pas amadouer. Et on lui disait, mais tu es le Messie sûrement, mais tu es Élie le prophète. Non! Et alors, il leur répondait toujours, j'avais noté ça, l'expression quelque part, dommage, parce qu'il n'y a pas. Ah oui, il répondait, ça, je trouvais ça super. Ah voilà. Genemeta ekidon! Oh là là, ça me plaît, ça. Oh, je ne sais pas ça comment ça plaît. Genemeta ekidon! Race de vipère! Ils venaient se faire baptiser par lui, confesser leurs péchés, et il leur disait Genemeta ekidon. Ça, c'est pour moi, c'est très parlant, ça. Vous savez, la vipère, la vipère, quand vous voulez vous traiter d'un nom d'animal, ça a une signification à chaque fois. Si vous dites t'es un espèce d'âne, ça veut dire t'es bête, quoi. T'es un âne, ça veut dire t'es bête, quoi. Et vipère. Vipère, ça veut dire quoi? Vipère, la vipère, c'est un cerf, c'est une femelle, quoi, bon, qui rampe, après avoir été fécondée par le mâle, tue le mâle, d'accord? Et une fois qu'elle met au monde des viperons, les viperons sortent-elles en lui déchirant le ventre, et donc les viperons, qui font des vipères, les nouvelles vipères, tuent leur mère à la naissance. Donc la vipère, c'est des contorsions, ça représente vraiment l'hypocrisie, du parricide, du matricide. Vous êtes une engeance, vous êtes une race de vipères, parce que vous êtes dans le péché. Le péché tue Dieu. Vous tuez votre Père, celui qui vous a donné la vie. Vous le tuez, et vous avez l'intention de le tuer. Si vous venez au sacrement de pénitence et au baptême de conversion, c'est parce que vous avez peur. Mais ce n'est pas pour vous convertir. C'est pour recevoir des ablutions. Mais ce n'est pas pour vous convertir. Ce n'est pas pour ex-homologuer vos péchés. Et qu'ils soient brûlés dans le feu. Ce n'est pas pour ça. C'est parce que, en fait, votre cœur, il est déjà décidé. Vous avez déjà décidé de tuer Dieu. Et Jean-Baptiste, il le voit très bien parce que quand il ne voit, il ne connaît, il est dans l'intimité avec le Verbe incarné que par le Verbe. Le Verbe s'est posé sur lui. Et il sait que le Verbe va être tué par eux. Il sait ça. Il le sait. Il voit en clair ce que c'est que le péché. Jean-Baptiste. C'est pour ça, c'est pas parce qu'il a un caractère impossible, que c'est un espèce de sauvage qui vient du désert, qu'il est si radical. C'est parce que il voit. Il voit dans leur cœur. Il lit dans leur âme. Et il sait qu'ils vont le tuer. Il sait qu'ils veulent massacrer la grâce de Dieu. La vie divine incarnée. Et le Verbe fait chair. Le Messie d'Israël. Le Sauveur du monde. Ils veulent le tuer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas renoncé au péché. Même venant au baptême. Ils n'ont pas renoncé au péché. Le nombre de gens qui apportent leurs enfants au baptême à l'église aujourd'hui, sans renoncer au péché. Ce qui fait souffrir tellement les prêtres. Qui eux-mêmes d'ailleurs ne renoncent pas au péché. faut renoncer au péché. Vous voyez, ça, il y a quelque chose, il faut y renoncer absolument. Parce que là, il a vraiment ce sens extraordinaire. Il dit, ne dites pas que vous avez la foi. Ne vous dites, oh, j'ai la foi, c'est justifié. Hein? J'ai la foi, donc c'est bon. Nous sommes des fils d'Abraham, après tout. Nous sommes de la race d'Abraham. Nous ne sommes pas des races de Guénéméta et Kidon, hein, la race de vipère, mais non, la race d'Abraham. Non, ne dites pas ça, Jean-Baptiste, ne dites pas ça! Puisque vous allez le tuer. Et en tout cas, je vous le dis, on sent bien que c'est Dieu le Fils qui parle, hein, à travers lui quand il dit ça. Je vous le dis, de ces pierres qui sont là, les quatre pierres sur lesquelles ont été posées, l'arche d'alliance sur lequel va être posé le baptême de Jésus, Dieu peut faire surgir des enfants Abraham. Dieu peut faire ressusciter ces egersai, le mot en grec de Saint-Luc, de ces pierres qui sont là. Dieu va faire lever, mais c'est le mot egersis, c'est-à-dire egersis en grec, c'est résurrection. Quand Jésus est ressuscité, c'est egersis Christus. Et c'est ça le mot que la Sainte Écriture emploie. De ces pierres qui sont là, Dieu va faire lever, ressusciter, vivre des enfants Abraham. Et c'est après ces paroles que Jésus arrive, qui se place sur ces pierres. Et donc Jésus descend dans les eaux, donc dans la déchirure de la mort de la Sainte Famille, de cette union transformante du cinquième mystère. Il s'enfonce dans les eaux. C'est extraordinaire comme chose, n'empêche. Il descend dans les eaux de là, du péché, quoi, qui descend en dessous. Il se plonge dedans et s'assimile à elle. Et du coup, à cause de ça, le ciel se déchire. Le ciel se déchire. Le ciel s'est déchiré. Ben, c'est extraordinaire parce que l'arche du Messie était passée là avec la nuée dans les eaux du Jourdain et les eaux s'étaient déchirées. Tandis que là, Jésus descend dans les eaux. Ce n'est pas les eaux qui s'éloignent, c'est le ciel qui se déchire. C'est le ciel qui s'écarte. C'est une puissance. Parce qu'à ce moment-là, on comprend ce que vit Saint Jean-Baptiste depuis la naissance. Depuis sa naissance, Saint Jean-Baptiste, il suffit qu'il vive, hein, se plonge, s'engloutisse dans cette véhémence du désir de l'anéantissement, de l'effacement de tous les péchés du monde dans le Verbe de Dieu, et le ciel se déchire. Et c'est comme ça qu'il vit du Verbe de Dieu. Et effectivement, cette fois-ci, le Verbe de Dieu est là, et ils sont tous les deux, ils le voient pour la première fois, ils le baptisent. Le ciel se déchire et non pas les eaux, puisque cette fois-ci, le Messie ne devait pas toucher les eaux au premier passage de l'Ancien Testament. Il devait s'y engloutir dans son incarnation pour prendre le péché sur lui et en être responsable et transformer lui-même en péché du monde. Mais c'est pour ça que cette fois-ci, il est englouti dans les eaux. Le ciel se déchire. Et du coup, puisque le Père est mort en Saint-Joseph, le ciel se déchire dans la première personne de la très sainte Trinité. Et la voix de Dieu, le Père, se fait entendre. On sent bien qu'il y a Saint-Joseph déchiré en bas, Dieu le Père déchiré en haut, qui se rejoignent là, et Dieu le Père. Et alors, faut voir comment ça s'est passé. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, je pense que tout le monde, vous avez déjà eu l'expérience, disons, surnaturelle, quoi, de voir le ciel qui se déchire en deux, quoi. Non ? Vous n'avez jamais vu ça ? C'est trop beau, quoi. C'est magnifique. Le ciel disparaît, le paysage, tout comme un livre qu'on roule. C'est l'intimité de Dieu qui est là. Avant la création du monde, qui est là. Vous avez jamais vu ça? Bon, prenez un bon steak. Des sauterelles, quoi. Du miel, quelque chose. Alors, il faut avoir, faut vivre, quoi. Faut pas dormir, faut... C'est vrai, un petit peu de piment, quoi, dans notre vie. C'est vrai, écoutez. Alors, il faut avoir la force, quoi. Alors, dans une transformante. Et alors, du coup, le Père se fait entendre. Et il y a ces paroles que donc, vous avez entendues, que vous connaissez par cœur, parce qu'on l'a fêté, ah ben, dimanche dernier, baptême de Jésus. C'est dimanche dernier, je crois, c'est ça. Bon, donc, vous avez tous entendu que Dieu, le Père, a dit, ben voilà... Celui-ci est mon fils Agapeton Uyon. Mou. Agapeton. Agapeton, c'est mon fils. C'est le mien. C'est mon fils, c'est le mien. Agapeton, c'est... Agapeton, c'est l'aimer absolu. Tu peux pas aimer plus quelqu'un que lui. C'est l'aimer absolu. Agapeton. C'est l'agapetos. C'est Dieu aimé absolument. Le Père aime Dieu et Dieu qui est aimé, c'est Dieu le Fils. C'est le Dieu vivant. Le Dieu vivant est aimé. Agapeton, c'est lui, le mien. Et le Père livre son fils. Et ça, c'est extraordinaire, les mystères lumineux, vous voyez, parce que jusqu'à maintenant, les mystères joyeux, on peut dire que la foi de Marie qui est derrière ce sixième mystère lumineux, qui intègre la mort de Joseph, qui intègre le don victimal de Jésus, qui intègre l'anéantissement de Jésus dans la mort, qui intègre toute la prière sacerdotale de tous les temps et de tous les lieux à travers Jean-Baptiste, origine cette déchirure céleste. C'est ça la réponse sponsale de l'Immaculée par sa foi, et qui provoque, j'allais dire, cette immense révélation et ce retournement des mystères lumineux. Il y a un retournement vraiment fantastique, parce que dans les mystères joyeux, par la foi de Marie, le Verbe de Dieu s'est enraciné dans la chair, s'est posé, a sanctifié, divinisé, épanoui le sacerdoce, etc. Enfin, tout ce qu'on a vu. Il s'est incarné de plus en plus jusqu'au mariage spirituel trinitaire de la Sainte Famille, dans l'union transformante. Il a intégré la mort dans Saint Joseph. Il a pénétré le mystère des limbes grâce à Joseph. Habitant dans son âme comme Verbe de Dieu subsistant par la grâce surnaturelle, puisque c'est une mort surnaturelle, la mort de Joseph. Une mort de grâce, mariage mystique, spirituel. Et donc à chaque fois, c'est le Verbe qui s'incarne de plus en plus profondément dans la chair, dans l'humanité, dans la mort, dans la vie limitée du monde. Tandis que là, d'un seul coup, c'est la divinité de Dieu le Fils lui-même qui est donné. Je ne sais pas si vous voyez la différence, c'est la divinité de Dieu le Fils, le Verbe se fait chair, c'est les cinq premiers mystères, de plus en plus. Le Verbe de Dieu se donne à la chair, se fait chair de plus en plus. Parce que dans les mystères lumineux, grâce à cette chair toute offerte, grâce à cet amour de la Sainte Famille, toute bénie surnaturellement, unie en une seule chair, grâce à ce corps mystique déjà conçu, et encore embryonnaire, il faut bien le dire, mais conçu et bien existant, eh bien, le Verbe de Dieu, la vie divine, à partir de cette chair du corps mystique va donner, le Verbe éternel de Dieu va donner la vie divine. Elle va donner la vie divine. Elle va donner la vie divine intime de la deuxième personne de la très sainte Trinité au monde. Voici mon Fils bien-aimé. Agapetos, Uyos, Mou. C'est le Verbe de Dieu qui donne les sacrements, donne la divinité intime du Fils unique de Dieu au monde. C'est le fruit des sacrements. Le baptême nous donne, dedans, à l'intérieur de nous, la divinité intime, éternelle et absolue, intégrale, sans rien oublier, de Dieu vivant, avant la fondation du monde, dedans, à l'intérieur de nous, comme un don. C'est le retournement. C'est vraiment un retournement. C'est pour ça que c'est vraiment lumineux. Alors, c'est la lumière intime du Verbe éternel de Dieu, qui est à l'intérieur de Dieu. Dans l'incréé, avant la fondation du monde, illumine le monde. Et grâce à Jean-Baptiste, eh ben, la lumière va pouvoir se répandre. Les mystères lumineux vont pouvoir commencer leur ascension. C'est donc, vous voyez, on voit bien quand même qu'il y a quelque chose d'organique entre le cinquième mystère et le sixième mystère. C'est organique. On ne peut pas ne pas le voir, celui qui ne le voit pas. Je l'invite, moi, pendant une semaine, à manger avec moi, matin, midi et soir. Je vais te prier de manger ce qu'il y a dans son assiette. Et oui, quoi. Alors, parce que le royaume de Dieu n'est pas une question de nourriture et de boisson. Quand est-ce qu'on va comprendre ça? C'est pas une question de nourriture et de boisson. Il est paix, joie, lumière dans l'Esprit Saint. Ah, il faut nous arracher, bien sûr, du monde du péché, on est d'accord. Et s'engloutir, du coup, dans la mort vivante de Jésus qui se fait péché pour nous. S'engloutir dans cette plaie, ce cœur extraordinaire sacerdotal de Jésus, qui, du coup, est amplifié dans toutes les béances de tous les fruits du péché, dans la mort de Hadès et de l'Éternel. C'est vraiment extraordinaire. Il faut s'introduire là, se réfugier dans le cœur de Jésus qui s'abaisse de plus en plus. Et moi, quand je suis dans le péché, je vais confesser mes péchés. En rentrant dans les eaux par Jean-Baptiste, en renonçant à mes péchés autant qu'il est possible, n'est-ce pas? Je vais les confesser. Et puis, c'est un baptême d'ailleurs pour la conversion. C'est un baptême, celui de Jean-Baptiste, c'est un baptême pour la rémission des péchés. Qui va vers la rémission des péchés. Mais ce n'est pas encore la rémission des péchés. Donc il faut, à partir de notre baptême, rentrer dans le cœur de Jésus. Nous engloutir dans le cœur de Jésus, tout ouvert par cette plaie gigantesque et éternelle. Et dedans, là, voir le Verbe de Dieu présent dans cette lui-même en dessous de cette offrande victimale. Et se plonger dans le sang précieux de Jésus, tout palpitant d'amour du Verbe de Dieu. Et se réfugier dans ses plaies, dans cette plaie éternelle. Être englouti et laisser brûler donc tous les péchés du monde, pas seulement les miens. Dans cet amour, parce que l'amour du Verbe de Dieu, c'est ce qu'on aime à l'état absolu, agapéton, agapétos. C'est celui qu'on, c'est l'aimer absolument. L'absolu de l'effondrement dans l'amour, quoi, c'est ça. Tu l'aimes, c'est l'aimer absolu, quoi. C'est Jésus. C'est le Verbe de Dieu. C'est mon Fils. Agapéton. Uios. Mon. C'est vraiment extraordinaire. Et on voit aller jusque-là le fruit de ce mystère. C'est de rentrer dans la lumière de la rédemption. Et toucher la lumière intime du Verbe de Dieu et voir que c'est l'absolu aimant, l'absolu aimé. C'est l'amour aimé à l'état absolu. C'est Jésus, c'est le Verbe de Dieu. Le Père est effondré d'amour. Tu ne peux pas être plus aimé que le Verbe de Dieu, que le Verbe vivant. Et cette fois-ci, c'est impossible de penser qui est. C'est impossible. Et tout amour vient de là. Il n'y a pas une étincelle d'amour qui ne vienne pas de là. Et c'est pour ça que c'est très lumineux, quoi, comme mystère. C'est très, très lumineux. C'est vraiment... C'est extraordinaire. Alors, du coup, aussitôt, parce que tout le monde a entendu, hein. Enfin, Jésus a entendu, Saint-Luc, Saint-Matthieu, Jean-Baptiste a vu et entendu, et puis dans un autre, j'ai entendu la voix. Bon, tout le monde a entendu, alors, et puis Jésus est reparti. Ce Jean-Baptiste, vraiment, il m'étonne, quoi. Il n'est pas parti à sa suite, hein, et je ne suis pas digne de dénouer, là. Il est tellement conscient que c'est Dieu que... Il le sait, tous les autres savent que Jésus est le Messie, hein, ça, j'en suis plus avance, plus je suis mis alors convaincu que tout le monde en Israël savait que Jésus était le Messie. Seulement, Sanhédrin, docteur de la loi, pharisien, Hérode, tous le savaient. Tous. J'en suis de plus en plus convaincu. Mais par contre, que c'était lui, le Verbe vivant de Dieu, le Créateur du monde, le Dieu vivant, ça non. Et Jean-Baptiste, oui. Jean-Baptiste, le Messie, c'était annexe. C'est pas son problème que Jésus soit le Messie. D'ailleurs, il dit, arrêtez, je ne le connais pas. Mais le Verbe de Dieu, ça, il savait que c'était Dieu. Et qu'on allait le tuer, du coup, parce qu'il était Dieu. C'est pas moi qui l'invente, hein, écoutez. Guénémata et Kidone. Race de vipère. Guénémata et Kido! Ça, Jean-Baptiste, il supporte pas, quoi. On va le tuer. Ils le savent, profondément. Puisqu'ils ne renoncent pas au péché. Donc, ils vont le tuer. Qu'il soit le Messie. C'est pour ça qu'il dit, je suis pas même digne de porter sa chaussure. Je peux même pas porter sa chaussure. Je ne peux pas dénouer la croix de ses sandales, vous savez, ce qui le noue à son pied, c'est-à-dire à son ardeur de la rédemption du monde et à sa chair, c'est ce lien du Verbe de Dieu dans son incarnation et de la rédemption, il n'est même pas digne d'y toucher, vous voyez, il le dit. C'est Saint Jean Chrysostome qui donne cette interprétation. Je ne suis pas digne de dénouer la croix de ses sandales. Ce qui noue la chair, l'incarnation du Christ, au zèle ardent du Verbe de Dieu pour l'incarnation. L'incarnation à la rédemption. Il ne peut pas toucher à ça. Il n'est même pas digne. Mais le Verbe de Dieu, oui, ça... Alors, du coup, il va y avoir le baptême. Il faut que nous accomplissions ce qui est juste, dit Jésus. Laisse faire. Il n'y a pas eu de dialogue entre Jésus et Jean-Baptiste. Il y a eu celui-là, c'est tout, quoi. Dans toute leur vie, quoi. Toute leur vie. La seule parole que Jésus a dit à Jean-Baptiste, laisse faire. Et Luc avait dit verbum facit pudeum. Le Verbe s'est fait sur lui. Et Jésus confirme en disant laisse faire. Il faut que nous accomplissions toute justice. Alors, il le baptisa aussitôt. C'est tout. Laisse faire. L'ajustement à Dieu dans le corps mystique de l'Église jusqu'au bout. Alors il le baptise. Et puis, Jésus va partir quelques semaines plus tard. Fêter la fête des expiations. Vous verrez ce que ça veut dire dans le livre du Lévitique, même dans le livre de l'Exode. C'est le 11 du mois, c'est vers le mois d'octobre, quoi, 11 du mois de Timri. Et c'est le jour de la fête des expiations que on désigne le bouc émissaire, vous savez, de partir dans le désert pour prendre sur lui tous les péchés du monde. C'est ce jour-là chaque année qu'on fait. c'est la fête des expiations. Vous connaissez l'histoire du bouc émissaire? Isaac a eu son bouc émissaire, du coup il n'a pas été tué. Donc Israël, chaque année, n'est pas anéanti par toutes les conséquences des fautes du monde et des conséquences des fautes personnelles d'Israël à cause du Messie qui doit être crucifié et qui est le bouc émissaire. Et donc on remercie Dieu chaque année avant que le Messie ne soit le bouc émissaire. Déjà Isaac, eh ben, il est vivant, et donc Israël est vivant, c'est tous les descendants d'Isaac, donc à cause du bouc émissaire, à cause du Messie qui doit être le bouc émissaire. Il part, on le fait partir au désert, et là-bas, le bouc émissaire doit mourir. C'est le jour du 11 de Batimri, vous savez, à la fête des expiations qu'on fait. Donc le 11 du mois, vers le mois d'octobre, Jésus passe non loin du Jourdain. Et à une distance assez grande de l'évangile, Jean-Baptiste le voit là-bas au fond, sans doute 400-500 mètres, je ne sais pas. Il le voit au loin, il le voit passer. Et il dit, voici l'agneau de Dieu. Et il le désigne. Et là, il accomplit le terme du baptême. Parce qu'après avoir dit que c'était vraiment le Dieu vivant qui était là, que Dieu le Père avait donné son Fils, il l'avait entendu, Jésus l'avait entendu aussi, bien sûr. Après, la seconde fois qu'il le voit, quelques jours après, c'est lui le prêtre, c'est l'ordre de Melchisédek, dans le baptême du sacerdoce lévitique nouveau, qui se terminait en lui, qui dessine, et ses derniers actes sacerdotales de Jean-Baptiste, dessine le bouc émissaire, c'est lui. Et ça, c'est le fruit du baptême de Jean-Baptiste, c'est que Jean-Baptiste a été celui qui a désigné la mission du Verbe éternel de Dieu dans la rédemption du monde. C'est lui, c'est par lui que Dieu le Père est passé, et Dieu le Fils, et Dieu l'Esprit Saint, pour que selon la loi et la volonté de Dieu, Jésus soit désigné comme le bouc émissaire au jour des expiations. Voici l'agneau de Dieu. C'était sous sa responsabilité. Je suis sûr qu'à partir de ce jour-là, il n'a plus jamais dit « Genemata et Kidon ». Race de vipère. De ce jour-là, il ne l'a plus jamais dit. Quand Saint Jean a entendu ça, quand Saint André a entendu ça, quand Saint Jacques a entendu ça, c'était des disciples de Jean-Baptiste. Ils n'ont rien dit à Jean-Baptiste. Ils ont suivi Jésus. Ce qui montre bien ce que Marie a fait, voyez, par sa foi. Dans le baptême, elle était toute présente, bien sûr, dans son unité sponsale avec l'âme séparée de son époux, dans la blessure du cœur de Jésus. Et du coup, elle a laissé partir Jésus dans le désert. Et c'est pourquoi l'Esprit Saint s'est saisi et a précipité Jésus dans le désert. Le mot est très fort, d'ailleurs, dans le texte de la Sainte Écriture, parce qu'on voit que du coup, ce fruit du baptême de Jean-Baptiste sur Jésus a été complètement incroyable, ça a tout retourné, le lien du ciel et de la terre, de Dieu et de la création, de la grâce et de la gloire. Tout a été retourné d'un seul coup. C'est fou ce qui s'est passé, quoi. Il y a quelque chose de... Ça y est, cette fois-ci, c'est la divinité intime et incréée de Dieu qui est donnée au monde dans la rémission des péchés, à travers la confession, à travers le baptême, à travers l'esprit des sacrements. C'est vraiment extraordinaire à travers le corps mystique de la Jérusalem glorieuse et céleste et terrestre.